Cette émission est préparée par Romain de Bec de Lièvre, Inès Duperron et Alice Ramon, avec à la réalisation Véronique Villa et aux manettes aujourd'hui Alain Joubert. Beaucoup de belles surprises et de gros succès pour vous, les Furets, en 2017. On dirait que votre bonne étoile veille sur vous. La constellation du Furet, entre autres. Votre vie sera une succession de victoires qui vous rendront toujours plus beau et plus intelligent. Les gens finiront par être jaloux, mais vous n'en aurez cure et changerez d'amis pour ne traîner qu'avec d'autres Furets, des gagnants, comme vous. En amour, toute cette année, vous serez irrésistible. Vous dissimulerez même vos pieds palmés grâce à d'astucieuses chaussettes. Furet, le Gorafi te prévoit du bon et crois-moi, cela vaut mieux que l'inverse. Tout le monde n'a pas ta chance. Faux horoscope pour faux signe pour vraie année qui vient. Il est 14h, passé de quelques minutes, secondes, vous n'avez plus besoin qu'on vous dise de vous méfier des contrefaçons. Bienvenue dans les nouvelles vagues. Cette semaine, nous nous sommes régalés au propos de chaque émission des chantiers thématiques que nous ouvrons. Nous ajoutons des histoires. Et cette semaine, nous voulions entendre de vraies histoires, d'histoires fausses, des mensonges. Vous avez bien un petit mensonge à nous raconter, à t'en demander autour de nous. Aujourd'hui, Lila invente avec ses amis et pour une amie, une histoire de tigre sacré.
Nous avions l'idée de lui offrir un chat. Mais bon, un chat, il s'avère que c'est quand même un peu compliqué, qu'on s'est quand même posé des questions et qu'on s'est dit que c'était peut-être pas sérieux de lui offrir un chat.
Alors elle invente un mensonge qui convainc au-delà de ce qu'elle pouvait espérer. On l'écoute vers 14h50. C'est le troisième temps de ce chantier consacré au faux. Comme chaque mercredi, nous interrogeons notre thème depuis la culture, les pratiques liées aux technologies de communication et au web. Web qui voit circuler dans ses tuyaux quantité de pastiches, d'informations fausses dont on pense qu'elles sont vraies, d'informations fausses dont on sait pertinemment qu'elles sont fausses, des parodies, des alertes truquées, des vrais clips de faux artistes, de faux bads, de bad buzz. Bref, la liste est longue sur Internet. Le faux a du succès, il est passé par ici, il repassera par là. Comme le Furet. Alexandre Lechenay, cette culture du web, vous en êtes un observateur fin. Vous êtes responsable éditorial de la revue Nichons-nous dans l'Internet, qui l'imprime avant qu'il ne disparaisse. Bonjour à vous et bienvenue.
Bonjour.
On peut encore trouver le numéro 5, tandis que le numéro 5 dispose d'une merveilleuse couverture, comme d'habitude. Et le numéro 6, on pourra le trouver si tout le monde travaille bien, à peu près en février-mars 2017.
Tout à fait.
Quant à vous, Sébastien Liebus, vous êtes stagiaire, comme beaucoup de gens. Mmh. Rédacteur, stagiaire... Manager du Gorafi, de Gorafi Madame, vrai site qui fait circuler des fausses informations qui disposent parfois de vraies idées à l'intérieur. Bonjour à vous et bienvenue.
Bonjour.
Vous publiez ces jours-ci, depuis l'automne, aux éditions Flammarion, un almanach 2017 qui prend déjà de l'avance, dont l'horoscope du Furet été tiré. Merci d'ailleurs pour les Furets, c'est quand même des belles prévisions. Hein.
Oui, mais on les aime beaucoup les Furets.
Mais nous aussi. Quand je vous dis faux et que je vous dis Internet, avant qu'on parle de Gorafi Madame et qu'on rentre peut-être dans une analyse de cas un peu plus sérieuse, vous pensez à quoi? Qu'est-ce qui circule de faux? Qu'est-ce que vous voyez de faux?
Je ne vois pas du tout ce dont vous parlez, voyons. De toute façon, si c'est sur Internet, c'est que c'est vrai. Et si on l'a vu aussi à la télé, c'est que c'est vrai aussi. Et si on l'entend à la radio, c'est encore plus vrai. Donc là-dessus, je ne comprends pas du tout ce que vous voulez dire.
Vous ne voyez que des choses vraies sur Internet.
Tout à fait. Mais on part du principe que, en fait, notre site, en quelque sorte, on est le seul à ne pas savoir qu'on publie des choses qui ne seraient pas totalement vérifiées, en quelque sorte. Donc, pour nous, tout ce qu'on publie, tout ce qu'on écrit est fondamentalement vrai, jusqu'à preuve du contraire.
Parce que vous n'avez pas pris soin, en tout cas, de vérifier complètement vos informations et que vous avez conscience de ne pas les vérifier complètement.
Non, et puis vérifier, ça prend du temps, c'est du travail, c'est long, c'est fatigant. On préfère sauter cette étape et passer directement à la publication.
Et alors avant d'être ce grand stagiaire, rédacteur, manager du Gorafi que vous êtes maintenant depuis quelques temps, vous étiez vous aussi un fin observateur de la culture web, de ce qui circule, de ce qui s'échange sur Internet?
Oui, j'ai souvent regardé, mais un peu en spectateur, comment les choses s'échangeaient, se partageaient, qu'est-ce qui faisait que quelque chose valait plus vite qu'une autre, qu'est-ce qui fait que quelque chose ne va pas rencontrer son public aussi. Donc c'est assez intéressant. À notre niveau aussi, des fois, On le voit, tel article parfois va rencontrer son public, tel article ne va pas le rencontrer, ou alors il va le rencontrer plus tard. Ça aussi c'est arrivé, on peut avoir un article publié, un lundi, et brutalement il explose le jeudi ou le vendredi, ou une semaine ou un mois après, les gens subitement tombent dessus. Donc ça c'est quelque chose qui est complètement aléatoire.
Et ces arguments de circulation rapide ou pas rapide ou de partage massif ou au contraire très discret n'ont rien à voir avec le vrai et le faux pour vous. C'est pas une question en fait.
Non, parce que en fait nous les gens savent depuis très longtemps ce qu'on fait.
Bien sûr.
Donc la chose c'est de réussir à convaincre et à faire dire à ce que les gens qui nous lisent encore, je crois qu'ils sont 5 il me semble, apprécient encore ce qu'on fait. Donc à partir de là, si on réussit ce pari de satisfaire ces 5 personnes. On sera content.
Mais en dehors du Gorafi, puisqu'il ne nous a pas échappé que sur Internet, il n'y a pas que le Gorafi, ni le Gorafi Madame, est-ce que vous êtes aussi attentif ou amusé peut-être à la circulation de pastiches,
oui, on regarde,
de fausses formes?
On regarde de temps en temps un petit peu surtout ce qui se fait aux États-Unis.
Pourquoi aux États-Unis spécialement?
Parce que nous avons nos grands cousins américains qui s'appellent The Onion. Il y a le Borowitz Report aussi. Dans son style. Et puis vous avez quelques autres petits sites. Et puis c'est vrai que là, avec la campagne américaine, vous avez eu toute l'émergence de ce qu'on appelle les fake news, qui pour le coup sont moins drôles, qui sont dans un autre genre en fait. Et d'ailleurs maintenant il y a tout le débat sur Facebook, va-t-il autoriser ou non les fake news, comment les modérer. Et ça pose aussi le difficile débat de trancher entre qu'est-ce qui est une fake news, qu'est-ce qui est de la satire.
C'était la question que j'allais vous poser. Comment est-ce que vous définiriez ce que c'est que la fake news qui est apparue donc pendant cette période électorale aux États-Unis?
La fake news, en fait, je prends un exemple tout simple à propos de l'affaire des pizzas et de ce qu'on appelle le Pizzagate, par exemple, qui est né en fait à partir des emails révélés par WikiLeaks, email de John Podesta qui est apparemment le chief of staff de Hillary Clinton. Et dans ces emails, il y a des échanges à propos de pizzas. Où ils se commandent mutuellement de pizza, ils parlent de garniture. Et certains ont commencé à prétendre que ces mots-là étaient en fait des codes destinés à acheter des enfants dans les souterrains d'une pizzeria. Donc c'était du trafic d'enfants, tout ça lié par des codes. Donc le problème, c'est que les emails existent, ils sont vrais, ils sont disponibles à tout le monde. Mais la manière dont ça a été interprété, ça a tellement dégénéré que là, il y a quelques jours, quelqu'un a débarqué dans une pizzeria à Washington avec un fusil et il a tiré dans le sol. Il a voulu se faire justice. C'est là qu'on se dit, voilà jusqu'où ça peut aller, par exemple. Mais là, on parle vraiment de fake news, de choses qui sont, comment dire, manipulées, d'une vérité qui est vraiment transformée et qui peut déboucher sur des drames. Par exemple, nous, la seule chose qu'on a fait, par exemple, quelque chose qui avait été très viral, c'était trop souriant dans le métro, il finit en garde à vue. Bon, la seule conséquence qu'il y a pu y avoir à Paris, c'est que les gens se sont abstenus de sourire du coup dans le métro. C'est toujours moins grave que débarquer avec un fusil dans une pizzeria quand même.
Vous parlez d'un cousin américain qui s'appelle The Onion. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage?
Alors, ils ont été créés en 1989. C'était un groupe d'étudiants. Et puis progressivement, ils se sont agrandis. Et là, maintenant, ils ont plusieurs sites. Ils ont The Onion, ils ont ClickHole, qui est une parodie de BuzzFeed. Ils ont aussi AV Club, qui est plus un aspect plus culturel, en fait, mais qui est un vrai site, pour le coup. Et là, récemment, ils ont été rachetés par Univision, qui est un gros consortium de langue hispanique aux États-Unis, pour quelque chose comme 200 millions de dollars ou quelque chose comme ça. Donc, c'est un cousin qui pèse, on va dire.
Et qu'est-ce qu'ils mettent en ligne, hein, ces cousins américains?
Alors, eux, ils sont partis justement d'une parodie de tout ce qui était New York Times, Washington Post. Si vous regardez la manière dont ils construisent leurs titres, la satire se base vraiment sur une grammaire et une musicalité du titre qu'on retrouve dans le New York Times, dans le Washington Post, enfin dans la presse américaine en général. Donc du coup, leur satire joue plus sur des codes journalistiques, joue plus sur une manière dont on va entendre un titre. Et ce qu'on fait nous aussi, par exemple, il arrive très souvent qu'on regarde quels sont les titres récurrents dans la presse française, quelle est la musicalité d'un titre, et il suffit de changer d'un mot, en fait, de rajouter quelque chose, ou même d'enlever un mot, et vous avez cet aspect de la satire qui, au-delà de raconter quelque chose de faux, part aussi sur un aspect réel et joue avec les mots. On pourrait presque dire que c'est du surréalisme, quelque chose comme ça, mais on est dans cette approche-là.
Il n'y a de faux que le contenu, le reste n'est qu'un travail de la langue qui, en jouant, s'autorise une critique sans le dire, ou en tout cas un amusement, une prise de distance sans le souligner plus que ça, de ce qui par ailleurs s'écrit entre guillemets en vrai dans les vraies informations.
Non, en fait, on fait juste ça pour l'argent. On réfléchit pas du tout à tout ce qui est tout ça. Non, je dirais que on essaye de rendre, d'avoir le plus une espèce de regard un peu journalistique. Après, on essaie de pas tomber dans la critique parce qu'on risquerait de devenir extrêmement ennuyeux si on commençait à donner la leçon à tout le monde tous les jours. Donc, on essaye d'avoir un peu de recul par rapport aux méthodes journalistiques, à ce qui se fait, aux titres récurrents. Par exemple, en ce moment, on s'amuse de voir tout le temps, dès qu'il y a quelque chose d'un peu important, il y a un titre qui revient souvent, c'est « Qui est vraiment machin ?» Qui est vraiment Hillary Clinton? Qui est vraiment Donald Trump? Et ce qui est génial, c'est que il pose la question et dans la même phrase, il donne la réponse. Qui est Donald Trump? Nouveau président des États-Unis. Qui est Hillary Clinton? Qui a perdu l'élection? Enfin. Et c'est amusant, c'est que ces titres-là deviennent quasiment des automatismes. Et on se demande, mais, enfin. Est-ce que c'est arrivé comme ça et tout? Donc des fois on essaye de démonter ça à notre façon. Et vraiment à notre façon, c'est-à-dire au bas de l'échelle, hein. On n'est pas là pour donner des cours magistraux au Collège de France sur comment écrire un titre de presse.
Alexandre Lechner, on a parlé du coup beaucoup d'informations pour commencer cette discussion sur la circulation du faux sur la toile. Quand on vous dit faux, falsification, pastiche, parodie et internet, vous pensez à quoi?
Je me souviens d'il y a quelques années, c'était peut-être en 2009-2010, et il commençait à avoir l'émergence de 4chan dans le débat public, et c'était donc des jeunes qui s'amusaient, et à l'époque, Internet n'avait pas la place qu'il prend actuellement, et du coup, il y avait un jeu donc, qui a été qualifié de attention hacking, et en gros, la monnaie d'échange maintenant, c'est l'attention, c'est combien de temps on va accorder à une information, à une série, à un jeu vidéo. Et du coup, ces jeunes sur 4chan ou en France sur jeuxvideo.com avaient trouvé un moyen de trouver plusieurs moyens même d'essayer d'arriver à capter l'attention des gens en créant du faux, en votant pour une fausse personne comme personne de l'année pour le Time, en créant des faux comptes, en créant des fausses informations. En France, il y a eu c'était sur Twitter, la fausse mort de Bernard Montiel, et du coup c'était quelqu'un qui s'en amusait et d'autres s'en amusaient, et petit à petit ça entraînait un démenti de Bernard Montiel qui disait non, je ne suis pas mort, et du coup quelque chose qui était un peu de la cour de récréation pour s'amuser, pour rigoler, et qui le seul but était d'être pris au sérieux par au moins une personne, et le but ultime était d'être pris au sérieux par des journalistes, d'être pris dans un bandeau pour dire... Alors, il y avait un faux compte de Tristan Bannon qui était une jeune fille qui avait accusé DSK. Et donc, elle avait tweeté quelque chose et du coup, ça a été repris sur iTélé. Donc là, je pense qu'il y a une sorte de petite victoire de la personne qui crée ce faux compte en se disant « J'ai réussi à berner des gens ». Et il y avait vraiment ce jeu-là. Et bon, maintenant, c'est un peu plus... C'est beaucoup plus politisé, donc c'est un peu moins plaisant à regarder, mais c'est un peu du même ordre. C'est vraiment combien de gens je vais réussir à berner, et c'est vraiment quelle blague je peux faire en faisant un faux compte ou une fausse information.
Mais finalement, tous les deux, vous revenez beaucoup sur la circulation du discours, la circulation du faux dans l'information, mais il y a aussi le faux, les fausses images, les choses simplement, je sais pas, truquer une photo présidentielle, un portrait, faire circuler une fausse publicité. Vous interrogez beaucoup dans Nichons-nous sur aussi une forme de l'esthétique de l'internet. Qu'est-ce qui attire votre œil dans cette esthétique du faux sur les réseaux? Ou qu'est-ce qui se trouve souvent? Qu'est-ce qui est répétitif?
Mais en fait, un vrai faux, il faut qu'il y ait les codes. Il faut qu'on s'attende à ce qu'on cherche dans la photo, par exemple. Ou même dans un faux texte. C'est-à-dire qu'on va chercher immédiatement... si par exemple, je sais pas, imaginons on vous montre un texte, une lettre de Churchill, vous allez chercher, si vous connaissez un peu Churchill, vous allez chercher de suite des mots que lui il utilisait ou des formules qu'il utilisait. Et un bon faussaire placera ces éléments à des endroits spécifiques du texte ou vous attendez à les trouver. Et s'ils n'y sont pas, vous allez dire, mais c'est bizarre, il aurait fini sa phrase comme ça, ou ainsi de suite. Et ça, c'est un faussaire qui connaît à la fois le faux qu'il construit et à la personne à qui il s'adresse.
C'est-à-dire le lecteur supposé et en effet le faux qu'il construit, parce que les éléments de vrai vont ajouter le sourire, la complicité avec ceux qui sont, à la fois quand on est berné, bon... On fait aussi circuler parce qu'on apprécie l'être.
Mais en même temps, on parle maintenant d'Internet. Mais par exemple, au XIXe siècle, il y a eu une affaire phénoménale de faux lettres de célébrité qui avait été fait par un Français dont le nom m'échappe complètement. Mais c'est une affaire assez connue où, en fait, ce Français avait fait des fausses lettres de Vercingétorix, de Jules César, de Cléopâtre, écrites en français, faites sur des parchemins. Et en fait, il a berné comme ça un collectionneur qui lui était persuadé d'avoir des vraies lettres de célébrité. Et quand il confectionnait son faux, il empruntait énormément des langages de la personne, il mettait des éléments qui faisaient que quand vous lisiez le texte, vous disiez, mais c'est vrai qu'il y a des trucs qui collent. Mais après, voilà, on parle de texte d'une lettre de Vercingétorix écrite en français. Voilà, lui il essayait, mais si, mais parce qu'en fait ça a été copié par un évêque, il est moine copiste et ainsi de suite. Mais voilà, et puis quand vous lisiez le texte, il y avait aussi parfois des énormités. Donc c'est pas nouveau, cette façon de vouloir faire un faux qui doit plaire et qui va se propager et que les gens vont se dire, mais si, c'est vrai parce que je l'ai lu.
Sur le point de l'image, Alexandre Leschnet, est-ce qu'il y a des, je sais pas, des faux typiques qui attirent votre œil ou qui vous amusent?
J'ai pas d'idée en tête, mais je pense que oui, quoi, le faux, c'est aussi un moyen de rendre hommage aux artistes en caricaturant ou en essayant de s'attacher vraiment aux détails ou aux choses qui nous rappellent l'auteur. C'est un moyen de lui rendre hommage et aussi un moyen de perpétuer l'œuvre. C'est lors du collage aussi, quoi, de comment, sur Internet, de toute façon, beaucoup de choses sont reprises détourné, et donc c'est toujours amusant d'essayer de se dire, et peut-être que moi je peux m'en rapprocher, peut-être voilà, rapprocher de l'aura de la star.
C'est aussi qu'on l'utilise hein, dans ce cas-là, quand vous parlez l'un et l'autre de la bonne connaissance de l'original pour créer du faux, c'est-à-dire qu'on emprunte aussi quelque chose de très connu pour le détourner, mais pour aussi jouir de la popularité de ce très connu, je sais pas. Enfin, là, ce qui me vient à l'esprit, c'est évidemment du Warhol, mais ce faux roi Warhol dont Warhol se jouait déjà de la célébrité et qui est repris pour aussi gagner de la popularité ou de la célébrité, c'est ce à quoi joue le faux. Le faux gagne là-dessus.
Oui, parce que moi, je vois même à mon niveau, quand on crée nos articles, on se base énormément sur le style journalistique. Nous, on a énormément lu tout ce qui était revues de presse et tout ça, donc on les a digérés littéralement. Donc, ce qui fait que quand on écrit nos textes, on place justement cette manière de construire pyramidale, comme on dit, je crois, une dépêche de presse. Donc, même si on place dedans des choses pas forcément tout à fait vraies, des fois, on garde quand même une structure et une manière d'avancer les informations qui reste, même si on n'a pas fait d'école de presse, on essaye de conserver cette grammaire et qui fait que voilà, on a un peu l'impression de lire une dépêche de presse ou qui s'en rapproche.
Environ 100 000 reprises sur Facebook, quasiment 3 000 sur Twitter. Alors Félix Baumgartner, on le rappelle, on l'a tous vu à la télé ou sur Internet. C'est cet homme un peu fou hein, qui a sauté
magique,
de 39 km en chute libre pour passer le mur du son. Écoutez. Vous vous souvenez de ça, hein, parfois il faut aller très haut pour se rendre compte à quel point on est petit. Eh bien, on a peut-être trouvé encore plus fort hein, pour lui. C'est un journal satirique en ligne, le Gorafi, qui lui donne une idée cette semaine, une idée encore plus dangereuse que de se jeter depuis la stratosphère. Je vous laisse deviner ce que c'est avec un son.
Alors ?
Vous reconnaissez ?
C'est la porte d'un métro, non ?
C'est un RER, précisément.
Oula,
ce défi que lance le Gorafi, c'est traverser l'Île-de-France en solitaire et en RERB.
Ça va.
Ça paraît insurmontable à certains internautes, en tout cas. L'article sur le sujet est très très drôle. Le journaliste s'interroge, la course au record va-t-elle trop loin avec ce nouveau défi ? On peut aussi lire l'analyse imaginaire d'un agent de la RATP qui explique « On n'est jamais à l'abri d'un colis suspect ou d'un accident voyageur ou des feuilles mortes sur la voie. » Alors là, voilà, ce serait le drame. Mais le plus drôle, ce sont les commentaires des internautes parce qu'ils ont beaucoup beaucoup réagi là-dessus. Tout le monde s'est pris au jeu. Plus de 200 réponses sur le site avec au choix des conseils pour survivre dans le RERB, des réactions indignées, voyez des gens qui s'inquiètent en disant « Mais je croyais que le RERB avait été condamné pour garantir la sécurité des Parisiens
!» Les commentaires sont presque les plus drôles, dit le journaliste sur France Inter dans la rubrique Net plus Ultra. On est en 2012. Sébastien Libus, est-ce que c'est le premier grand succès du Gorafi, on peut dire, son premier grand succès viral?
On en a eu plusieurs. On a eu le Trop souriant dans le métro, il finit en garde à vue. On a eu celui-là. Et on a eu un qui a énormément marché aussi. C'était un candidat retrouvé 6 ans plus tard dans une cellule de Fort Boyard. Celui-là, il a tellement bien marché qu'il nous a faussé nos statistiques pendant plusieurs années. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on veut créer un business plan, nos statistiques sont complètement foireuses. C'est une horreur.
Par rapport au fait que cet article-là a été beaucoup trop vu, beaucoup trop partagé et que vous ne pouvez pas vendre ce succès-là à des publicitaires. Parce qu'on parlera d'argent. Tout à l'heure, vous aviez dit que vous ne faisiez ça que pour l'argent. Quand vous citez ces trois cas-là, ce sont des trois cas 2012 à peu près?
Fort Boyard, on est en 2013. Mais on a eu souvent des pics comme ça et très en fait souvent je dis c'est très difficile de savoir quel article va marcher ou pas. Honnêtement, le Fort Boyard, moi j'y croyais pas. Je pensais pas qu'il allait marcher. Je me suis dit bon, on va le mettre, c'est bien, il a un potentiel. Et je me souviens l'avoir mis et puis d'avoir sur Facebook fait rafraîchir la page en quelque sorte et en 10 secondes on en était à 250 partages. Je rafraîchis la page, on en était à 500 partages. Je crois qu'en fin de journée, on a eu quelque chose comme 15 ou 20 000 partages rien que sur la page Facebook. Donc, c'est là qu'on se rend compte que la chose devient virale et qu'elle vous échappe. Et que, nous, franchement, à aucun moment, on s'est dit, celui-là, il va marcher. On n'y pense pas, en fait. Et très souvent, quand on fait nos réunions de presse, nos conférences de rédaction, chacun arrive avec ses titres, ses idées. Et des fois, on a des idées qui plaisent, des fois moins, mais j'avoue que des fois, il est très dur de se dire « Tiens, celui-là, il va marcher, on va faire 2 millions. » Parce que non, en fait, on peut jamais deviner. Il y a des articles auxquels on croit qui marchent pas. Et ça, c'est vraiment... C'est la règle du jeu, comme on dit.
C'est comme faire une blague auquel personne ne rigole. C'est un peu ça qui se passe.
Exactement.
Vous croyez beaucoup à cette blague.
C'est l'histoire de ma vie. Mais oui, et des fois, vous avez un article qui va cartonner. Moi, je me souviens, un article qui avait beaucoup fait rire, c'était « Il se sent trahi après que le gérant du kebab a appelé quelqu'un d'autre chef ». Et cet article-là, moi, j'avais pas forcément compris à quoi tout ça pouvait faire référence et tout. Et il a énormément marché. Les gens ont beaucoup, beaucoup, beaucoup...
Alors, à quoi cela faisait référence? Parce que vous dites beaucoup, on ne sait pas ce qui va marcher. Mais une fois que les choses ont des titres, hein, parce qu'on va aussi beaucoup reparler force de vos titres, est-ce que vous comprenez après coup, après avoir réuni plusieurs centaines de milliers de clics parfois, qu'est-ce qui fait, à quelle culture, aussi imaginaire collectif, ça fait écho?
J'avoue, des fois, c'est très très aléatoire. Je pense que plus un article va être dans les préoccupations des gens, de ceux qui vivent au jour le jour, par exemple des lieux comme les transports en commun, ça touche tout le monde. Je crois que l'humain passe la moitié de sa vie dans les transports en commun, donc forcément les gens vont réagir là-dessus. Quand on a fait, je me souviens, on a fait un tweet sur à propos de Gilles de Verdez qui avait reçu une claque de la part de Joey Starr dans Touche pas mon poste, et on avait fait un tweet de un faux tweet d'Obama disant qu'il exprimait toute sa solidarité envers les fans zouz. Et ce tweet a eu près de 10 000 retweets avec des gens qui étaient persuadés qu'Obama avait vraiment apporter son soutien à Gilles de Verdez.
Ça veut dire qu'aujourd'hui encore, vous pouvez jouer sur ce ressort du faux. Ça veut dire que tout à l'heure, vous avez dit, bon, maintenant, tout le monde sait bien ce qu'on fait. Le Gorafi, tout le monde sait que ce ne sont pas que de... Enfin, on va dire pas que des vraies informations. En même temps, ce ressort-là, du faux, mais qui suppose être vrai, fonctionne encore.
Mais oui, parce que par exemple, pas plus tard qu'au mois de novembre dernier, juste après l'élection de Donald Trump, on avait fait un article sur François Hollande qui envoie une lettre de remerciement trop vite à Hillary Clinton. Et les gens ont vraiment pensé, c'est là qu'on se dit que vraiment François Hollande a quand même un drôle de ressenti dans la population, les gens ont vraiment cru que François Hollande avait vraiment envoyé un télégramme de félicitations à Hillary Clinton trop vite. Le fait est qu'on a appris après, c'est qu'en fait ils avaient préparé un télégramme, ne l'ont jamais envoyé, mais ils n'en avaient préparé que pour Hillary Clinton, ils n'avaient pas préparé pour Donald Trump.
Donc si ça fonctionne, c'est que votre faux imaginé en conférence de rédaction touche du vrai.
Oui, parce que nous, en fait, on est dans un absurde du quotidien. Moi, je dis souvent, si je pouvais vous faire un diagramme, je vous dirais, voilà le niveau d'absurdité des titres de presse. Et voilà notre niveau d'absurdité. Nous, on se situe, on va dire, peut-être 5 ou 6 niveaux au-dessus de l'absurdité du titre de presse. Et on est dans une absurdité qui est constante, mais plutôt basse. En fait, par exemple, on ne va pas annoncer tous les jours, par exemple, que tel ministre est un extraterrestre, par exemple. C'est ce que faisait Info du Monde, qui était plus une parodie des tabloïdes. Nous, on est dans une absurdité du quotidien. C'est-à-dire que notre absurdité, notre faux, baigne vraiment dans une certaine banalité. Et que, par exemple, moi, je dirais que notre satire, elle joue sur plusieurs niveaux. On peut à la fois inventer, par exemple, un télégramme que Hollande aurait envoyé trop tôt, mais aussi, on va mettre en évidence des comportements de la vie de tous les jours. Mais détourner et traiter comme si c'était un journaliste de BFM TV qui vient de découvrir la chose, qu'elle existe. Que par exemple, un journaliste de BFM TV découvre que waouh, le café fait effet, par exemple. Ou qu'il fait nuit à 18h en hiver. Et à partir de là, on voit qu'il y a plusieurs façons d'aborder de la satire. C'est pas juste de la fausse info ou comme de l'info, comme certains
avec
disent.
Le 1 privatif ou le 1 contradictoire.
Voilà, ça, ces gens-là, je les aime pas beaucoup, en fait. Mais voilà, nous on fait de la satire, et ce qui fait que voilà, vous avez une satire qui va être à la fois, comme je vous l'ai dit, inventée. Par exemple, les extraterrestres estiment possible l'émergence d'une vie intelligente sur Terre d'ici 3 à 5 millions d'années. Voilà, ça c'est un titre qu'on a eu fait. Et à côté, on pourrait dire par exemple, voilà, quelqu'un qui va dans un kebab et la personne qui le sert l'appelle tous les jours chef, comment ça va chef, et puis un jour il voit que cette même personne appelle chef un autre client, et d'un coup il se sent trahi, il se dit mais c'était moi que t'appelais chef jusqu'à présent. Donc on transforme ce côté quotidien banal en titre de presse, et c'est là que ça fonctionne, c'est ça que les gens aussi apprécient, en fait. C'est-à-dire qu'on leur met en évidence la vie de tous les jours sous le nez, emballée sous un côté BFM TV exclusive, priorité au direct.
Une PME du Jura lance une OPA sur le groupe Bolloré pour voir. Culotté, lol, eh ben bon courage les mecs, c'est qui ce dingue ? Les échos recueillaient des réactions contrastées hier à la Bourse de Paris à l'annonce de l'OPA agressive lancée par Chaussu Confo, une petite entreprise jurassienne spécialisée dans les semelles orthopédiques contre le groupe de Vincent Bolloré. Une histoire qui n'est pas sans rappeler le mythe de David contre Goliath, si David s'était fait pulvériser par Goliath en moins de 12 secondes. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Dany Housseau, la cinquantaine sémillante, semble avoir fait sienne la devise de Michel Blanc, alias Jean-Claude Duss, dans Les Bronzés font du ski. Échaudé par le film Wall Street 2, Money Never Sleeps, en VOD la semaine dernière, cet optimiste de carrière, comme il aime à se définir, a lancé hier matin une OPA hostile, pour voir, sur le puissant groupe Bolloré. 55 000 employés répartis dans 36 filiales, 10,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2015. C'est osé, mais Dany est un joueur, vous savez, confie Stéphanie, assistante de direction à Chaussu Confo. Le genre de type qui réinvestit sans sourciller ses 4 euros de gains au banco dans un morpion ou au numéro fétiche. Un sacré fonceur. Mais cette fois, le pari est risqué. Et les enjeux sont d'un autre calibre. Pour acquérir les 43% du capital de Bolloré nécessaire à sa prise de contrôle, Dany Housseau doit lever pas moins de 13,9 milliards d'euros avant la semaine prochaine, selon les termes de l'autorité des marchés financiers, AMF. Une gageure pour cette modeste PME de province qui emploie une douzaine de personnes pour un bénéfice net de 120 000 euros l'année passée.
France Culture.
Les Nouvelles Vagues.
Par Marie Richeux.
Et voilà, c'était vrai, c'était faux, je ne sais pas. Priorité au direct, vous avez dit juste avant que Romain de Bec-de-Lièvre ne lise un extrait, Sébastien Liebus, du Gorafi de l'année 2017. Ça ne s'est pas encore passé, mais c'est déjà écrit. Ici, on entend aussi une forme, et c'est assez intéressant qu'il y ait une référence biblique à David et Goliath, une forme de revanche. Il y a aussi quelque chose d'une revanche qui serait une revanche, comment on pourrait dire, populaire, ou du petit contre le grand. Est-ce que ça fait écho en vous, ça ?
Dans ce texte-là ? Oui, parce que...
Dans ce texte, et puis du coup, peut-être réfléchir un peu plus largement. Est-ce que, tout à l'heure, Alexandre Leschnet disait, il suffit qu'un type en convainque deux autres et qu'il, d'une certaine manière, il puisse dérégler la machine avec une fausse information, une fausse histoire ?
Après, on est à. Il y a aussi le problème justement de ce que je disais de Pizzagate tout à l'heure, qui devient la conspiracy theory. C'est-à-dire, c'est une information qui, bien qu'elle ait été démentie par tous les officiels, est tellement ancrée dans l'esprit des gens que pour enlever cette idée, c'est c'est très difficile. Moi, par exemple, j'ai une amie qui est, avec qui je discute souvent, qui est persuadée, qui pense que le Pizzagate est réel, et qui pense qu'il y a des enfants qui ont été achetés, qui sont retenus en otage dans les caves d'une pizzeria de Washington. Et quand je lui dis, quand je lui montre les liens, montrant que c'est démentissant et démontant tous les trucs, tous les photomontages, ben, elle me dit, mais oui, mais elle veut des preuves plus tangibles. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'une fois que vous avez implanté l'idée dans la tête de quelqu'un pour l'enlever, ben ça demande c'est un effort quasiment surhumain.
Vous parlez de photomontage, évidemment, l'image est peut-être la chose qui circule le plus vite et le plus fort sur Internet. Alexandre Leschnet, est-ce que vous avez jeté un coup d'œil sur les images utilisées sur le site de Gorafi et Gorafi Madame ?
Alors, je crois qu'il y a beaucoup d'images de stock qui sont... il y avait un article récent qui expliquait notamment le ressort et la réussite de ces sites de fake news ou de parodies, c'est qu'en fait, on a utilisé un design de plus en plus aplati et les références d'illustration sur Internet, quand on travaille dans un vrai média, on dit qu'il faut mettre une image tout le temps. Mmh. Et autant pour François Hollande, c'est facile de mettre la tête de François Hollande, autant quand on doit illustrer un article sur le café du matin ou quelque chose d'autre, on va prendre une image de stock, donc des images qui sont produites à la volée. Et effectivement, il y a toujours ce de réutiliser ces images, de réutiliser un design très flat, très plat et très caractéristique, ça va tout de suite faire douter le lecteur. Il va dire, ça ressemble quand même beaucoup à ce que je peux voir d'habitude sur les autres sites, donc peut-être que c'est vrai.
Pardon. Et puis il y a aussi au-delà de la photo, il y a aussi la structure même du site. Par exemple, chez nous, on a fait le choix d'avoir un site avec un design très sérieux, très sobre. Façon site de news, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui va vous indiquer attention, ceci est un canular ou ceci n'est pas tout à fait vrai. Et ça c'est important, c'est quasiment 50% du faux en quelque sorte là-dedans.
Et vous alliez poursuivre Alexandre Leschnet?
Oui, non, mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui notre média principal c'est Internet, et si on veut prouver à quelqu'un que le Pizzagate c'est faux, on va
lui donner... Il faut aussi aller sur Internet.
On va lui montrer des liens de sites qui ressemblent vraiment beaucoup et on lui dit, ce site-là, t'as le droit d'y croire, cet autre site-là, qui ressemble beaucoup, qui a des images. Mmh. Et le seul moyen que, sur le Pizzagate, la personne qui est allée sur place avec un fusil ou une arme à feu, à ce moment-là, il s'est rendu compte que c'était faux. Mais il a fallu qu'il aille sur place parce que, effectivement, quand on argumente à coup de sites qui se ressemblent et d'images pareilles et puis de photomontages, mais il y a des photomontages dans la presse normale aussi. On fait des petites journaux pour que l'image soit plus proche. On rassemble les gens. Donc il y a des manipulations partout. Et on dit aux gens, il y en a certaines qu'il faut croire ou qui sont normales. Il y en a d'autres qui sont pour rigoler. Et puis il y en a d'autres, c'est pas correct.
Du coup, on arrive aussi à des hiérarchisations qui quittent le seul registre de l'humour. C'est-à-dire qu'avec ce flou-là où vous dites le seul moyen, finalement, c'est d'aller voir... Bon, alors c'est extrêmement dramatique, cet exemple-là, mais d'aller passer la porte de la pizzeria, ça veut dire que ce faux-là qui circule sème un trouble gigantesque.
Ah mais oui, puis c'est un vrai problème. Ça, c'est ce qui a... Comment dire, c'était le ver dans le fruit de la campagne américaine. Quand on voit que les sites de fake news, et là on parle vraiment de fake, hein, pas de satire comme The Onion, c'est vraiment deux univers différents, étaient plus partagés que les vrais articles. Que le fact-checking, aujourd'hui, il est mort-né. Enfin, Trump, il suffit qu'il dise une énormité et vous avez 15 journalistes qui vont arriver derrière en disant « Non, c'est pas vrai ».
C'est trop tard,
ça servira à rien, il l'a dit. Et même si eux, ils arrivent pour le contredire avec des faits, avec des analyses, personne ne les écoute. It's like, the more I try, the less I feel. In desperate need of something real. Why lately I ain't been the same. And why I try so hard to hide this pain. I search but I can't ever find. Can't seem to leave my past behind. Cause all the ones I hope would stay are all the ones that fade away. Truth is, I think about you often. I miss your voice, I miss your smell that I used to get lost in. I know you know I had this thing for you, I never lost it. I think
I just lost myself in the midst of the nonsense. 9 times out of 10, I close my eyes and dream about you. Don't know what it was, but you just had this thing about you. Lately, we've been distant. See, I just can't be without you. And my soul got so attached to yours, I can't be me without you. But we hate ourselves because we run from the people we love. And we all hold on to the past because we miss what it was. Don't want to feel, so we try numbing the pain with these drugs. Living in hell because we lost faith in the place up above. And my anxiety is breaking me. It kills me. I'm living in a world so fake, I lost touch of the real me. Had to take a look back just to ask me if I'm still me. Would I still stand for this if they wanted to kill me? I can't take it no more, I just can't take it no more. I can't smile like I'm okay, I just can't fake it no more. I can't act like I've been happy and complacent no more. Cause every time I try to change it, it's the same as before. My karma's coming, my karma's coming, it's weighing in. I'm drinking till all my feelings just fade away again. And mama, she always told me this ain't a way to live. But when you feel what I'm feeling, that's just the way it is. I'm trying not to break down, but I just can't hide this pain. Saw myself in the mirror and I'm just not the same. But who's to blame? I guess we all change. We hurt the ones we love because of our pain. Fuck.
Moi, j'ai envie d'organiser un truc à la Orson Welles sur Twitter. C'est-à-dire que je pense qu'il est tout à fait envisageable d'organiser un canular géant en semant des petits cailloux, des indices et en faisant croire à 50, 100 000, puis par capillarité, des centaines de milliers de gens qu'on est en train de faire un truc absolument incroyable. Alors, il va falloir le monter à l'avance avec... Mais je suis absolument persuadé que ça peut être l'équivalent de ce qu'avait fait Orson Welles à la radio lorsqu'il avait fait croire à ses auditeurs que les extraterrestres arrivaient. Et je pense qu'on peut tout à fait truquer, farder, comme le dit joliment Dominique à plusieurs reprises dans la conversation.
De toute façon, je crois qu'effectivement, ce que mettent en évidence ces réseaux, c'est moins peut-être la puissance de la technique qu'on met souvent en avant dans un discours un petit peu de surface, que la puissance de la sociabilité. Donc effectivement, en fonction des environnements sociaux dans lesquels on est, que ce soit dans la vie réelle ou dite virtuelle, nos activités, nos choix, nos relations vont être amplifiées effectivement par ces mécanismes. Mais vraiment, ce que ça donne à voir, dans le sens effectivement du vrai ou du canular peut-être, c'est la puissance des réseaux, justement, des réseaux, des communautés, des relais sociaux qui sont mis en évidence par ces outils.
Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles.
We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's, and yet as mortal as his own. We know now that as human beings busy themselves about their various concerns.
C'est vrai que ça fait frissonner, peut-être c'est faux, mais peut-être c'est vrai quand même, cette arrivée des extraterrestres. Alors on entendait dans cette émission de mai 2012 du Grain à Moudre sur France Culture, Canular et Réseau, l'idée selon laquelle le fantasme absolu c'est de réussir sur Twitter ou Facebook, ce que Orson Welles a fait à la radio avec cette annonce de l'arrivée des extraterrestres. Et on entend aussi dans ce débat que finalement l'ingrédient majeur pour que circule le faux, c'est la sociabilité. C'est parce que le web est conçu en réseau, c'est parce que le web est conçu en communauté que le faux circule. Vous diriez ça à Alexandre Lechner ?
Oui, on crée des nouvelles. Avant, c'était la voisine qui pouvait nous dire quelque chose et on la croyait ou pas, ou on avait envie de la croire. Et puis maintenant, on crée des nouvelles communautés et des communautés affinitaires. Et du coup, c'est sûr que quand sur un réseau qu'on fréquente tous les jours, on voit des informations, on a aussi envie de croire les gens. Et puis si on peut plus croire nos amis d'Internet, pourquoi on reste amis avec eux? Et donc je pense que effectivement le fait qu'on soit quand même beaucoup dans des contacts avec plusieurs sites et tout ça, ça ajoute aussi au partage et on a envie de... Et puis le mécanisme de la rumeur, c'est quand même de, avant de vérifier si c'est vrai ou pas, on a quand même juste envie de le partager tout de suite. Et on le partage parce que ça pourrait être vrai. Même si c'est faux, ça pourrait être vrai et ça a quand même, c'est important.
Ah, c'est le soupçon du vrai qui, selon vous, fait qu'on va partager. Ce n'est pas la conscience de partager des codes et par exemple des codes du sens de l'humour avec une communauté autour de nous qui va faire que, conscient du faux et pour s'amuser de ce faux, nous le partageons.
Mais je pense que c'est un peu comme la distinction. On peut partager un article du Gorafi en se disant que il est drôle et que moi, je vois l'humour et donc mes amis vont voir l'humour et c'est pour ça que ça va marcher parce que je connais le cercle de gens à qui je vais l'envoyer. Et puis, je vais le poster sur Facebook et j'aurai un commentaire de quelqu'un d'autre qui va le prendre au premier degré et qui peut-être, lui, va le partager au premier degré. Et j'avais fait une enquête sur tous les chaînes de mails que recevaient, notamment, c'était les personnes les plus âgées qui... Et c'est toujours quelque chose qui commence par un ami m'a dit que, ou alors j'ai le fils de mon frère qui travaille à la DGSI, et puis après, et tout ça, ça marchait, on avait travaillé. Et en gros, les gens le partageaient en se disant, je vais pas le vérifier, j'ai pas les moyens de le vérifier. En plus, la presse n'en parle pas forcément puisque elle ne veut pas que ça se sache. Mais du coup, ça pourrait être vrai et ça répond à mes valeurs, ça répond à ce que j'ai envie de... à ce que j'ai envie de défendre en ce moment ou alors ça montre l'image de la société telle que je la vois et c'est pour ça que je vais partager cette fausse information ou fausse ou pas, c'est un message, c'est plus un moyen de se renforcer au niveau de la communauté, de dire bah vraiment regardez, alors c'était souvent des messages assez c'était dénigrant pour les immigrés et du coup ça montrait voilà il y a quand même un problème et même si c'est pas vrai et ben ça pourrait l'être ou si c'est pas lui ben c'est un autre.
Et l'essentiel c'est que finalement ça serve mes idées, je le partage avec ce flou sur le vrai et le faux, mais je le partage surtout parce que cela correspond à ce que je pense.
Voilà, et ça donne, ça montre l'image que je veux donner de moi, quelqu'un qui est très ferme sur... Et ça marche aussi bien pour les partisans d'extrême droite que de gauche, que de droite, et puis que les féministes, que si le message qu'on trouve correspond aux valeurs, et c'est pour ça qu'on partage des contenus sur Internet. On passe notre temps à essayer de façonner une image qu'on veut donner. Et finalement, cette image, elle peut être... construite avec des fausses informations, avec des petits messages humoristiques. Et moi, quand je partage un article du Gorafi, je le fais souvent en tant que journaliste pour dire « Ah, là, ils ont bien pointé du doigt, qui est encore une expression pourrie, sur, effectivement, comme on disait tout à l'heure, qui est le vrai... qui est vraiment Hillary Clinton ?
Qui est vraiment Hillary Clinton, celle qui a perdu à l'élection américaine ?
Et du coup, je me faisais la même réflexion ce matin. Donc, l'article du Gorafi va me permettre de dire, bah voilà, ça, c'est effectivement ce qui me définit. Et puis, si c'est une parodie de quelqu'un d'autre ou une rumeur, bah, je vais la mettre quand même en avant en me disant, ah, quand même, ça me correspond un peu, donc je vais la partager.
Mais vous allez partager un article du Gorafi qui va pointer du doigt expression pourrie, une autre expression pourrie, plus qu'un article de la revue Débat ou de la revue Esprit ou de la revue du Matricule des Anges qui va faire une analyse littéraire de l'expression pourrie en tant que telle. Et pas un article court, percutant et assez souvent drôle, sans lancer des fleurs au Gorafi.
On peut faire les deux.
Coucou la rédac, je vous écris parce que je suis face à un dilemme. J'ai commencé à flirter avec Stéphane depuis 2 semaines. Et si en apparence tout va bien, il est très gentil, mignon et il ne vomit pas trop quand il a bu, j'ai l'impression qu'il ne me comprend pas vraiment. En fait, voilà, j'aimerais bien qu'il me trouve spéciale, mais qu'il m'ignore aussi, tout en me trouvant belle, mais pas trop son style quand même. Est-ce qu'il arrivera un jour à cerner ma personnalité ? Charlotte, 24 ans, Montpellier. Bonjour Charlotte. Ton problème est très commun. Beaucoup d'hommes ne comprennent pas la complexité des femmes et se contentent de sourire quand ils sont contents ou d'être gentils quand ils ont envie de faire plaisir à leur copine. Quels idiots! Si aujourd'hui, près de 3 femmes sur 4 s'ennuient dans leur couple, c'est à cause précisément de ce problème de communication et d'imbécilité masculine. Et pourtant, la solution est simple. Il faudrait que tu apprennes à ton copain à être plus subtil, et rusé, dis-lui que tu aimes les hommes mystérieux, manipulateurs et surtout les connards. C'est un terme qui revient souvent pour parler d'une personne avec qui ça n'a pas marché ou alors qu'on aurait bien aimé. Petit à petit, il deviendra plus distant, mais saura raviver la flamme au bon moment en te disant qu'il t'aime, même s'il ne te trouve pas terrible dans ce legging. Il te fera l'amour fougueusement puis te dira que tu te laisses aller par rapport au début. Ou bien tu découvriras un soir qu'il est sur un site de rencontre, ce qui boostera ton amour pour lui. Charlotte, c'est à toi de prendre ta vie en main et de faire de cette mauviette un enfoiré, d'accord ? Apprends-lui les bons réflexes et tu verras, tu pourras être à nouveau malheureuse en amour. Alors voilà un petit extrait, un extrait complet d'ailleurs, je crois. Donc ce n'est plus un extrait, la lecture complète d'un article d'Hugo Rafi Madame. Vous parliez brièvement tout à l'heure, Sébastien Libus, des conférences de rédaction qui vous font échanger les idées de titres ou d'articles pour le Gorafi. C'est une rédaction différente que celle du Gorafi Madame.
Ah oui, c'est une rédaction distincte avec ses rédactrices. Et
qui ne sont que des femmes ?
Il y a un ou deux hommes dedans, mais c'est une grande majorité. Je crois qu'on compte, je crois qu'il y a cinq filles et deux hommes, je crois, dans l'ensemble, et avec une rédactrice à la tête. Et voilà, on fait nos conférences de rédaction, et après, quand elles ont fait la sélection d'articles, moi, j'arrive derrière et je fais mon mansplaining en disant non, ça c'est pas bien, ça va, ça c'est pas bien, même si c'est à la fin, c'est elle qui gagne toujours.
Ça vous fait pleurer manifestement, mais quelle était l'idée de lancement du Gorafi Madame ? Est-ce que c'est simplement, vous vous êtes dit, le Gorafi fonctionne, on arrive à vendre de la publicité, parce qu'on s'est dit, il faut quand même qu'on parle un petit peu d'argent pour cette histoire de Gorafi, et donc on va élargir notre champ, où il y avait là aussi l'envie d'élargir le champ de moquerie ou de mise en lumière de certains mécanismes
déjà,
de la presse féminine.
Un, gagner de l'argent. Ouais. Voilà, ça c'est le principal. Deux, on avait des rédactrices qui le demandaient depuis pas mal de temps parce que elles écrivaient. L'actuelle rédactrice fait l'horoscope pendant plusieurs années.
Dans le Gorafi.
Dans le Gorafi, tous les lundis matins. Elle s'appelle Mathilde et je tiens à la saluer. Et elle nous a demandé à un moment, voilà, j'ai envie d'écrire autre chose et. Ça me botte bien. Et comme on avait plusieurs autres rédactrices, on a lentement réfléchi. Après, il y avait deux axes. Il y avait à la fois la presse féminine. Et le problème, c'est que si on fait que de la parole de la presse féminine, ça va vite tourner en rond. Donc du coup, on a, au fur et à mesure, vous avez l'exemple aux États-Unis, un site qui s'appelle Reductrice, qui à la fois traite de la presse féminine, mais va traiter aussi du féminisme dans ses grandes lignes, et il n'est pas juste là pour moquer le féminisme, mais aussi pour moquer comment les hommes, eux, abordent le féminisme. Et ça, c'est aussi assez intéressant. Donc, elles font vraiment un boulot fantastique à essayer justement de démonter et d'apporter de nouvelles idées là-dessus.
Alors, je ne sais pas si c'est dans le Gorafi ou dans le Gorafi Madame que je lisais un titre d'article ce matin qui était « Fillon s'engage dans la campagne présidentielle » ou « Fillon, si les présidents s'engagent à prononcer le mot femme au moins une fois par mois, Gorafi ou Gorafi Madame ?»
Ça, c'est Gorafi Madame, oui.
Ça signifie que ces sujets-là, vous ne les traitiez pas dans le Gorafi ou c'est pour vous important que ce soit regroupé sous le Gorafi Madame ? On pourrait aussi s'en moquer. En fait, de cette séparation.
Il faut réfléchir en termes de médias. Par exemple, vous avez le Figaro, il y a le Figaro Culture, il y a le Figaro Madame, vous avez le Figaro Politique, dont le nom m'échappe actuellement, c'est pas le Lab, ça doit être un autre.
Le Scan,
exactement. Le Scan.
Merci,
voilà.
Alexandre Lechner.
Merci. Et donc voilà, nous, on a pensé ça en structure média, donc du coup, on s'est dit, voilà, on a de quoi alimenter un site à part. Donc on a voulu créer. Comme je vous dis, il y avait à la fois une demande rédactrice et il y avait une demande aussi des lectrices qui demandaient à avoir aussi un petit coin à elles pour qu'elles puissent se marrer tranquillement et sans être emmerdées par les mecs.
Pour qu'on puisse vous féliciter le Gorafi de faire des petits coins pour les femmes.
Ah non, c'était une demande, donc du coup on s'est dit tiens on va le faire, voilà. Et puis je trouve que voilà, on arrive à trouver notre vitesse de croisière actuellement et moi, j'avais envie aussi. Moi, ce que je demande souvent aux rédactrices, c'est de faire des articles qui vont taper un peu sur les hommes. Voilà. Et il y a quelles qui peuvent le faire et d'avoir ce recul sur voilà, trouver des angles et des articles qui vont vraiment mettre le doigt là où ça fait mal, là où ça gêne et voilà.
Bon, en attendant de trouver des journalistes hommes qui vont pouvoir taper sur les hommes, parce que je suis persuadée que ça existe. C'est quoi le modèle économique du Gorafi ?
Alors, l'argent de la drogue, les voitures volées et je crois que j'en oublie un troisième.
La publicité.
La publicité, voilà, c'est ça.
Non, concrètement, vous disiez tout à l'heure, il y a cinq personnes qui nous lisent. Évidemment, il y en a beaucoup plus.
Dont ma mère.
Ça vous permet qu'on salue. Ça vous permet de vendre cette audience relativement chère. Ça vous permet, parce que donc tout à l'heure, j'ai failli dire, j'ai dans l'impression de la page du Gorafi Madame qu'il y avait une publicité qui intervenait. Il y en a pas mal, hein, il y en a sur chacun des articles.
On a, comme tout, en fait, on a le fonctionnement d'un un site traditionnel. Vous avez une régie publicitaire, vous avez les droits des livres, les droits télé. Donc voilà, ça fait tourner la boutique et ça permet à tout le monde de vivre convenablement, on va dire.
Allô, oui ?
Oui, bonjour, madame.
Oui ?
Oui, bonjour, c'est Nicolas Hulot à l'appareil. Vous connaissez l'émission Il est choix, il tue ?
Oui.
Très bien, vous nous avez déjà regardé. Vous connaissez alors la séquence frisson. D'accord. Nous sommes dans les canalisations d'eau de votre immeuble avec un caméraman et un ingénieur du son. Et alors le problème que nous avons, c'est que nous essayons de remonter à la surface tous les trois. Mais je ne sais pas si vous avez déjà vu vos canalisations d'eau.
Ah non, pas du tout.
Bien, disons que les parois sont plutôt rêches. Je voudrais savoir si pour cette séquence frisson, vous pourriez faire couler un peu d'eau avec du savon ou un liquide vaisselle qui nous permettrait de remonter plus facilement à la surface et de nous dégager de ce conduit.
Bon, ben écoutez, alors, je vais aller à la cuisine.
Je vous remercie.
Je vais tout de suite et je ne raccroche pas.
Hein, ne raccrochez reviens. Pas, voilà, vous êtes gentil.
Ils sont dans les conduits de canalisation de notre immeuble et ils ne peuvent pas remonter parce que c'est trop
raide. Chers téléspectateurs, vous êtes au cœur de Il est choix et il chut. Et oui, c'est en effet la grande séquence frisson. Séquence frisson avec Nicolas Hulot. Allô ?
Voilà, j'ai fait couler avec de l'eau avec du produit de vaisselle.
Eh bien écoutez madame, je vois en effet l'eau qui arrive vers nous. Nous tentons effectivement de nous dégager, de remonter vers le conduit. Les parois semblent plus humides, je vous remercie beaucoup.
Est-ce que vous voulez que je remette encore ?
Écoutez, dès que j'aurai raccroché, vous en remettrez un petit peu. Vous m'entendez là ?
Oui, je vous entends très bien, moi.
Ah, le signal est moins bon, je ne sais pas si vous m'entendez.
Oui, je vous entends très bien, Nicolas Hulot.
Eh bien écoutez, je vous remercie, car les parois sont humides et nous glissons le long des tuyaux de vos canalisations d'eau. Comment vous remercier ?
Oh, ben, j'en sais rien.
Écoutez...
En venant me voir.
Bon, ça vous a quand même relativement fait rire, tous
oui,
les deux,
c'est,
Alexandre Lechenay et Sébastien Liedus.
C'est fantastique, ce passage. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que là, à aucun...
Jean-Yves Lafesse, on va prévoir.
Voilà. À aucun moment, il va tourner en ridicule la personne, en fait.
Il est à deux doigts, quand même.
Il est à deux doigts, mais il y a une bienveillance, quand même. C'est-à-dire qu'il est pas, on sent qu'il a en face quelqu'un qui veut juste faire bien et qui veut juste qu'il puisse descendre dans ce tuyau, en fait. Et je trouve ça tellement, il y a un côté naïf et je trouve ça vraiment très mignon, en fait. Parce qu'elle fait couler son eau, elle met son produit et tout, et elle espère ardemment qu'il est descendu au fond du tuyau.
Alexandre Lechenay, qu'est-ce qui vous fait rire en réécoutant cette archive de Jean-Yves Lafesse?
Mais c'est effectivement le fait que, petit à petit, en ayant quand même quelques arguments d'autorité, puisque c'est Nicolas Hulot, c'est le monsieur de la télé, il est en direct, mais petit à petit...
Et si
il
vous
arrive...
l'avez vu à la télé, c'est vrai.
Voilà, il arrive à faire oublier à cette dame toute rationalité, parce qu'elle va quand même verser du liquide vaisselle pour l'aider à remonter dans un tuyau de sa canalisation d'eau, dans lequel il ne peut pas tenir, dans lequel il ne peut pas être non plus. Et c'est vraiment... la prendre par la main et petit à petit, oui, l'amener dans un truc complètement fou où les gens participent en se disant voilà, peut-être que c'est vrai. Et de la même manière, Orson Welles a amené tous les gens à croire que les extraterrestres étaient arrivés. Pareil, en construisant, on entendait le début de l'émission, il commence tout de suite en parlant des extraterrestres en disant voilà, c'est quelque chose qui existe, on vous l'a jamais dit. Et comme par hasard, à ce moment-là, il y a une attaque d'extraterrestres et des gens sont arrêtés et tout. Et
Orson Welles.
Oui, Orson Welles. Ouais. Et du coup... Il y a effectivement, c'est quasiment de l'art de les prendre par la main et de petit à petit les amener et les plonger dans quelque chose de complètement différent. Et à la fin, je pense que je ne sais pas si cette dame se rend compte après du rigolo de l'histoire ou du fait qu'il n'ait jamais pu être dedans ou si elle va tout le temps croire qu'un jour Nicolas Hulot était dans ses canalisations. Mais je pense que c'est toujours amusant.
Vous écoutez France Culture, les nouvelles vagues par Marie Richaud.
Et sur France Culture, nous avons eu cette semaine envie d'ajouter à nos réflexions autour de ce chantier thématique du faux, des histoires, comme chaque semaine. Donc à 14h50, on a demandé à des personnes de nous raconter des mensonges, des gros mensonges avec des conséquences plus ou moins loufoques, plus ou moins joyeuses, plus ou moins importantes. Aujourd'hui, l'histoire d'un tigre.
C'est l'histoire d'un mensonge autour d'un cadeau d'anniversaire. Nous sommes 5 très bonnes amies et l'année de nos 30 ans, nous fêtions nos anniversaires. Et pour la dernière d'entre nous, Madeleine, nous avions l'idée de lui offrir un chat.
Mais bon, un chat, il s'avère que c'est quand même un peu compliqué, qu'on s'est quand même posé des questions et qu'on s'est dit que c'était peut-être pas sérieux de lui offrir un chat. Et c'est une amie qui adore les animaux, qui adore les petits tigres, etc. Il s'avère que j'étais en voyage en Inde et que dans la région où j'étais, il y avait un parc où des tigres étaient protégés. Une autre amie, Marielle, avait acheté à Madeleine une petite peluche, un petit tigre. Et est venue l'idée du fait que j'ai été en Inde, de se dire que cette peluche venait de là-bas et qu'elle avait été achetée en même temps qu'un certificat de parrainage et que son cadeau, c'était de parrainer un tigre pour qu'il grandisse dans des bonnes conditions, qu'il soit soigné, etc. Mais le mensonge ne s'arrêtait pas là. Cette peluche était ramenée en France. Son groupe d'amis, nous serions allés dans un temple indien pour bénir la peluche avec tout un protocole de l'encens, des offrandes, et que cette peluche soit d'une certaine façon divine et qu'elle lui porte chance une fois qu'elle l'aurait avec elle. Voilà tout le périple autour de cette peluche que nous avions inventée. L'anniversaire arrivant, nous lui offrons la peluche. Forcément, elle était un peu déconcertée de se dire « Oh ben voilà, c'est mignon une peluche ». Et on a commencé à lui raconter l'histoire du périple, de l'Inde, du certificat de parrainage, de la sortie au temple, des offrandes. Et là, elle était hyper touchée, les larmes aux yeux. Ses parents étaient à côté d'elle, hyper touchés aussi. De se dire, oh, mais vous avez fait ça, vous êtes vraiment allée au temple pour moi. Mais comment on va baptiser cette peluche elle, je la regarderai toujours à côté de moi, etc. On la sentait très prise par cette histoire et vraiment, elle le prenait très à cœur. Et là, on s'est dit, dans quoi on s'embarque? Parce qu'à la finale, on lui avait offert en fait que des bijoux. Des bijoux certes anciens, mais que des bijoux. Et cette peluche n'avait que de symbolique son histoire. Mais je crois qu'elle est devenue malgré tout une certaine mascotte.
Le groupe Le Tigre chante Fake French, un faux français. Pour terminer cette troisième émission du chantier thématique consacré au faux, merci beaucoup Sébastien Libus d'avoir été avec nous.
Merci. On peut
signaler le Gorafi de l'année 2017 surtitré « Tout le futur selon des sources contradictoires » s'est publié chez Flammarion 2017 comme si vous y étiez. Encore ou toujours. My Google Search History, c'est un livre d'Albertine Meunier. C'est publié par les mêmes éditions que la revue Nichons-nous dans l'Internet, dont le numéro 5 est toujours en vente. Si vous voulez que le numéro 6 existe, achetez le numéro 5, Alexandre Deschenais.
Exactement.
C'est un peu ça le principe. Merci à vous d'avoir été avec nous. Les Nouvelles Vagues, ça se réécoute sur franceculture.fr. On peut s'abonner au podcast. Comme ça, on a tous les podcasts à la maison directement dans son téléphone ou dans son ordinateur. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Facebook et Twitter pour continuer de se parler. Franceculture.fr pour continuer d'échanger. À demain.